Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux morts en deux jours dans l'Essonne et le problème des bandes qu'il nous faut bien regarder en face. Les bandes mais aussi la justice des mineurs. Que risquent vraiment ceux qui dérapent? La réponse judiciaire est-elle la bonne? C'est un juge pour enfants, Sébastien Carpentier, qui viendra répondre à toutes les questions que nous sont posées et elles sont nombreuses. Il nous racontera aussi son quotidien dans son cabinet au tribunal de Nanterre. Rendez-vous donc dans un quart d'heure à 18h15. Bonsoir Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Pour commencer, on découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mercredi 24 février.
Après Nice, Dunkerque reconfiné le week-end dès vendredi soir. Des derniers jours cruciaux pour certains départements où les chiffres de l'épidémie sont mauvais. On regardera la carte de France dans un instant. Vous en parliez, Thomas Cérix, dans l'Essonne. Vous entendrez le témoignage poignant d'un habitant de Boussy-Saint-Antoine. Un ado de 14 ans est mort dans ses bras. Le bilan financier de la SNCF en nette baisse, mais moins pire que prévu. Et puis saisie record de cocaïne en Allemagne, 16 tonnes, c'est du jamais vu en Europe.
Ça fait beaucoup. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, il y aura encore beaucoup de soleil.
Exactement, sauf sur le nord-ouest quand même, puisqu'on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va donner un peu de pluie, mais vraiment pas grand-chose. Un ciel bien nuageux toute la journée, ça restera couvert également sur le golfe du Lion, toujours ses entrées maritimes, quelques nuages et quelques gouttes. Partout ailleurs, il fera très beau, vous l'avez dit, après dissipation des grisailles, surtout dans le sud-ouest, et puis des températures qui seront en baisse, mais toujours au-dessus des normales, des minimales comprises entre 2 et 12 degrés. Des maximales entre 11 et 20 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Après Nice, autour donc de Dunkerque, de se reconfiner partiellement, le taux d'incidence y est 4 à 5 fois supérieur par rapport aux chiffres nationaux. La mesure entre en vigueur dès ce week-end, annonce le ministre de la Santé sur place.
Ainsi, à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hautes-Flandres, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Les déplacements resteront possibles pour certains motifs, tels que des achats de première nécessité ou encore des motifs médicaux. Vous connaissez ces motifs. Et les commerces, autres que les commerces alimentaires, seront fermés. Les centres commerciaux d'une surface supérieure à 5000 mètres carrés, il y en a 10 dans ces deux aires urbaines, ne fonctionneront plus qu'en cliquer emporté. Les jauges de fréquentation des autres commerces seront réévaluées à 15 mètres carrés par client. Les protocoles sanitaires seront rétablis sur les marchés. Par ailleurs, dans l'ensemble du département cette fois, la vente d'alcool à emporter ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites.
Propos recueillis par Antoine Decarne à Dunkerque.
Donc on dit plus click and collect, on dit cliquer, emporter.
Tout à fait.
C'est important.
Sur le front de la vaccination, Thomas, 16 700 doses supplémentaires vont être déployées dans cette région, ajoute le ministre de la Santé.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, que l'on entendra demain soir à 18h, a priori pour une conférence de presse aux côtés du Premier ministre Jean Castex. Et puis il y a le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui lui a averti les Français tout à l'heure. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national.
Et il alerte sur certaines zones particulièrement fragiles. Pour l'instant, pas d'annonce officielle à l'issue de ce Conseil de défense. Mais si on regarde la carte de France du taux d'incidence, certains départements pourraient bien connaître de nouvelles restrictions, Sophie Jousselin.
Oui, ils sont situés dans quatre régions du haut en bas de la carte de France. Hauts-de-France, région Grand Est, Île-de-France et PACA. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, il dépasse le seuil d'alerte fixé à 250 dans la majorité des départements. 349 dans le Pas-de-Calais, 301 dans le Nord comme à Paris, 314 en Seine-Saint-Denis, idem dans le Var, 348 dans les Bouches-du-Rhône, 312 en Moselle. Et non seulement les courbes des nouvelles contaminations repartent à la hausse, mais s'ajoute à cela le niveau très élevé des taux d'occupation dans les services de réanimation, 128% par exemple dans le Pas-de-Calais. Certes, on n'atteint pas les chiffres des Alpes-Maritimes avec un taux d'incidence de 595, mais les chiffres sont inquiétants et pourraient donc entraîner des mesures plus strictes, voire des confinements locaux. Le but, essayer de circonscrire cette nouvelle poussée épidémique pour éviter d'en arriver à un nouveau confinement généralisé dans les jours ou semaines qui viennent.
Merci à vous Sophie Jousselin, Olivier Véran qui parle de prochains jours cruciaux pour ces zones. Deux adolescents tués en 24 heures dans l'Essonne, dans deux rixes. Les deux affaires ne semblent pas être liées selon le parquet. La dernière s'est déroulée hier à Boussy-Saint-Antoine. Un garçon de 14 ans a été tué, probablement d'un coup de couteau au ventre. Ça s'est passé quasiment dans les bras de Moustapha, un travailleur social. Témoignage très émouvant.
Je me suis dit, je vais essayer de calmer les choses. Je me suis vite rendu compte que j'étais entouré d'un nombre incroyable de jeunes et que je pouvais rien faire. Donc j'ai rebroussé chemin jusqu'au moment où j'ai entendu qu'un jeune était tombé parce qu'il venait de recevoir un coup de couteau. Donc j'ai refait demi-tour à nouveau, j'ai essayé de voir comment je pouvais intervenir, l'aider. J'ai vu une jeune fille qui avait mis un t-shirt sur la plaie pour éviter que le sang coule à flot. J'ai pris la main du petit, je lui ai parlé. J'ai vu qu'il ne me répondait pas, qu'il avait les yeux révulsés. J'ai vu que son état était vraiment critique. Et il était blessé à l'abdomen, il avait reçu un coup de couteau. Je pense qu'elle lui a perforé ou le poumon ou le cœur. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à respirer. Ouais. Je lui ai pris la main, je l'ai vu nous quitter. J'ai un sentiment un petit peu quand même de culpabilité. Je me dis qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse justement pour que ce jeune puisse être parmi nous aujourd'hui. Comment est-ce que j'aurais pu calmer les autres? Je le vis très mal. Hein. Je suis sous le choc en fait. Je pense à lui déjà en premier. Quoi. 14 ans, c'est pas un âge pour mourir. Quoi.
Voilà, le témoignage de Moustapha au micro RTL de Morad Djabari. Alors, il y a eu Bussy-Saint-Antoine. La veille, une autre rixe mortelle éclatée à Saint-Chéron. On est à une quarantaine de kilomètres de là. Une adolescente de 14 ans a été poignardée alors qu'elle tentait de s'interposer et elle aussi a succombé à ses blessures.
6 mineurs vont être présentés à un juge d'instruction pour 5 d'entre eux. Le placement sous contrôle judiciaire a été requis. Pour le dernier, âgé de 16 ans, le parquet demande son placement en détention provisoire. Alors, je me tourne vers vous, Cindy Hubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Plus largement dans ce type d'affaires où des mineurs sont en cause, que peut faire la justice? Quelle est la réponse pénale?
Eh bien, très classiquement, il va y avoir une instruction. Le juge va devoir démêler les responsabilités de chacun. Ici, les faits sont graves. S'il y a un procès, les mineurs vont donc comparaître devant un tribunal pour enfants. Dans cette affaire, l'auteur accusé de meurtre à 16 ans, lui, pourrait donc être jugé devant une cour d'assises des mineurs. Quoi qu'il arrive, le juge a toujours à l'esprit que ces jeunes sont des êtres en construction. C'est tout le principe de la justice des mineurs, l'éducatif doit toujours primer.
Et que risque-t-il alors?
Eh bien, le juge dispose d'un panel de mesures très large, des mesures éducatives, cela va de la simple admonestation à des stages de bénévolat dans une association, un suivi régulier par la PJJ. Et puis le juge peut également prononcer exactement le même genre de peine que pour les adultes, des tiges, travaux d'intérêt général, du sursis probatoire, de la prison ferme. Ces peines sont simplement divisées par deux.
Vous le disiez, la primauté doit rester à l'éducatif, Cindy. À partir de quel âge un jeune peut-il aller en prison en France aujourd'hui?
À partir de 13 ans. La prison reste vraiment la toute dernière option. Avant cela, le juge peut décider par exemple d'un placement en centre éducatif fermé. Si l'on regarde les chiffres de 2020 sur tous les mineurs mis en cause, 7% ont été condamnés à de la prison ferme, 775 mineurs incarcérés au 1er janvier, un nombre stable depuis près de 10 ans.
Cindy Hubert du service police-justice d'RTL.
Ouais, je vous rappelle qu'on parlera de ce sujet, de ces bandes et de la justice pour mineurs avec Sébastien Carpentier, juge pour enfants au tribunal de Nanterre et membre du syndicat de la magistrature. Il sera avec nous dans quelques minutes. Dans un instant, après la pause, on va voir la SNCF qui a un peu moins mal que ce qu'elle redoutait.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Aude-Vernuccio. Après un an de pandémie, la SNCF publie tout à l'heure son résultat annuel pour 2020. On s'attendait au pire. Mais ce n'est pas complètement le pire.
C'est moins pire que prévu, mais perte tout de même énorme de 3 milliards d'euros. La chute des recettes a été amortie en quelque sorte par un plan d'économie, explique Jean-Pierre Parandou, le PDG de la SNCF.
C'est donc une mauvaise année. Comme je le disais, le groupe a souffert de la crise. TGV a beaucoup souffert, moins 50% de chiffre d'affaires. Mais dans le groupe, il y a Geodis qui, lui, a progressé de 4,5%. Voilà, donc on voit des réalités très différentes à l'intérieur du groupe. La SNCF a été touchée par la crise. Les résultats de 2020 le montrent, ils sont peut-être moins pires que ce qu'on avait craint à l'issue du premier semestre, donc on a su réagir, mais ce ne sont pas des bons résultats, je vous l'accorde. Pour autant, nous sommes confiants dans notre capacité de rebond. Et je peux vous dire que la SNCF saura trouver sa voie dans cette stratégie de volume, avec toujours en tête l'idée très claire qu'elle doit être utile aux Français et utile au territoire qu'elle dessert.
Propos recueillis par Anaïs Bouissou pour RTL. A noter ce soir que l'UNEDIC prévoit un déficit de 10 milliards d'euros et anticipe la destruction de 230 000 emplois en 2021.
L'UNEDIC est le régime d'assurance chômage du pays. On va à l'étranger à présent, Aude. Et Paris dénonce clairement sans détour le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine.
Une communauté musulmane persécutée d'après de nombreux témoignages. Une étude américaine parle 1 million de personnes internées dans des camps de travaux forcés. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, parle d'un système de répression institutionnalisé dans la région du Xinjiang.
De la région chinoise du Xinjiang, nous parviennent des témoignages et des documents concordants qui font état de pratiques injustifiables à l'encontre des Ouïghours et d'un système de surveillance et de répression institutionnalisé à grande échelle. Dans de trop nombreuses régions, les possibilités d'expression de la société civile se réduisent en raison des mesures prises par des régimes autoritaires ou qui ne comprennent pas qu'il ne saurait y avoir de stabilité et de développement sans respect des libertés fondamentales et de l'aspiration des sociétés, notamment de la jeunesse, à vivre librement.
Propos recueillis par Christophe Decroix pour RTL. Direction l'Allemagne à présent avec une saisie record de cocaïne à l'échelle européenne. 23 tonnes, dont 16 rien qu'en Allemagne, dans le port de Hambourg. On l'a appris aujourd'hui. L'opération s'est en revanche déroulée il y a 10 jours. La drogue en provenance d'Amérique du Sud était cachée dans des conteneurs, Blandine 1100.
La drogue était soigneusement cachée dans des boîtes de conserve. 1700 boîtes censées contenir du mastic, mais qui passaient au rayon X ont montré qu'elles recélaient une toute autre marchandise. Ces boîtes étaient réparties dans 5 conteneurs, ils arrivaient du Paraguay et étaient destinés à une firme d'import basée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Le gérant de cette firme, un jeune homme de 28 ans, a du reste été arrêté. Voilà pour la cocaïne saisie dans le port de Hambourg, connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Mais dans le cadre de la même enquête, la police belge a saisi, elle, plus de 7 tonnes de cocaïne dans le port de la ville de Anvers. Cette fois, la drogue était dissimulée dans un conteneur transportant du bois. Au total, donc, 23 tonnes. C'est la plus grosse saisie de cocaïne jamais effectuée en une seule fois en Europe. Selon les enquêteurs allemands, la valeur de cette marchandise représenterait jusqu'à 3 milliards d'euros.
Blandine 1100, correspondante d'RTL en Allemagne.
Nous sommes le 24 février et on tient encore
la bonne nouvelle du jour.
Le pari de la bonne nouvelle quotidienne.
Allez-y. Le pari d'Amandine Bégaud, j'essaye de le tenir. Je vous raconte ce soir et l'histoire d'un trésor oublié pendant 100 ans. C'est un tableau de Vincent Van Gogh, une scène de rue à Montmartre qui a été retrouvée. Ce tableau sera exposé à Drouot du 16 au 23 mars avant la vente aux enchères. Un tableau estimé entre 5 et 8 millions d'euros. Un mystère demeure pourtant sur son acquisition. Aurélie Van de Voorde, elle est chef du département d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's.
Les tableaux de Van Gogh avaient été très peu vendus du vivant de Van Gogh, donc la quasi-totalité des tableaux sont ensuite restés dans la famille de Van Gogh. Donc il est probable que le tableau a fait partie de cette succession. Et ensuite, on sait qu'il y a environ 100 ans, ce tableau a été acquis par la famille qui le détient aujourd'hui encore. Et dans beaucoup de ces tableaux de cette époque, il va peindre des paysages véritablement assez peu animés. Et ça évoque déjà vraiment les tableaux majeurs que Van Gogh va peindre à partir de 1887, compte tenu de la rareté, de la qualité et du côté aussi charnière du tableau pour comprendre l'évolution de l'art de Van Gogh. Nous avons mis une estimation de 5 à 8 millions d'euros. L'estimation nous semble tout à fait conservatrice et raisonnable.
Des propos recueillis par Monique Younes pour RTL.
Merci à vous, Aude, et à tout à l'heure. Il est juge pour enfants au tribunal de Nanterre alors que les bandes s'affrontent, on en parlait dans le journal de 18h, et que l'on s'interroge sur la justice des mineurs. On a bien besoin de son savoir et de son expérience. Sébastien Carpentier est l'invité RTL d'RTL Soir tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.